Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable du week-end. Nous sommes en direct jusqu'à midi et j'en profite pour vous souhaiter de belles vacances si vous en avez. Les grandes gueules seront là tout l'été, que vous soyez sur la route, à la plage, à la piscine, au travail, avec un week-end de folie hein, pour commencer cet été. Pour les fans de sport, le Tour de France évidemment au programme, au lendemain d'une nouvelle étape remportée par Tadej Pogacar, le Slovène qui a repris le maillot jaune avant même les grosses étapes de montagne. Y a-t-il encore du suspense sur ce Tour de France? On en parle avec Christophe Cessieux en direct sur les routes du Tour dans un instant, et avec vous au 32-16. Le Tour de France également au programme de la seconde des GG. Plusieurs chutes ont marqué cette première semaine, parfois aux conséquences lourdes. Certains accusent les organisateurs, d'autres estiment que les coureurs sont les responsables. Faut-il incriminer les coureurs? Ce sera le débat de 11h. Et puis à 10h, la Coupe du Monde des clubs au programme. PSG-Chelsea, ce sera demain en finale. Et en parallèle de cette compétition, il y a la lutte pour le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé favori, mais est-ce qu'il a enterré le débat du Ballon d'Or? Oui ou non, ce sera le bras de fer des GG, sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping des GG avec notamment le licenciement de Christian Horner de Red Bull, mais aussi la punchline GG signée Novak Djokovic. Vous allez l'entendre après sa défaite face à Yannick Sinner. Hashtag RMC Live sur X, l'appli RMC Direct Studio, le 32-16. Ouvert dès maintenant pour participer au débat avec nos GG. Aujourd'hui, les GG ce matin, une GG qui, comme Ligue 1 Plus, ne coûte pas trop cher. Simon Dutin est avec nous. Salut Simon.
Salut François, salut tout le monde. Ça coûte encore moins cher que Ligue 1 Plus. Ouais, hein. Alors... Abonnez-vous, n'hésitez pas.
Ravi d'être avec toi en tout cas ce matin. Une GG qui, comme Ligue 1 Plus, de toute façon n'a pas le choix, on doit faire avec. Fred Weiss, salut Fred.
Salut, salut. Oui, effectivement.
Il occupe l'espace.
En fait, tout le monde est en vacances, donc je suis obligé d'être là.
Et une GG qui, comme Ligue 1 Plus, nous promettait du spectacle, mais ça se terminait souvent par un 0-0. Pascal Duprat est avec nous. Salut Pascal.
Salut François, salut les amis.
Salut Pascal.
Salut, salut.
Comment ça va?
En pleine forme, ravi de vous retrouver comme toujours, et en plus le week-end avec les mêmes apparemment. Ça
alors,
va être génial.
On va avoir une équipe des GG aujourd'hui, ça sera la même demain. Donc je pense que vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour demain. Ils sont contents.
On est tellement bien ça. Moi dès que je vois Simon en face de moi, de son
mais c'est bien parce que ça va permettre à Fred de se chauffer un peu. Peut-être que demain il arrivera quelque chose en débat. Voilà.
Exactement, c'est ça. Évidemment, d'autres GG passeront nous voir au cours de cette émission, notamment ceux qui sont sur le Tour de France. Dans un instant, Christophe Cessieux. Il y aura aussi Jérôme Pinault qui viendra nous voir également au cours de ces grandes gueules du sport. Et puis en direct dans les GG, deuxième match de la tournée en Nouvelle-Zélande pour le 15 de France. Ça vient de partir entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est Clément Brossard qui est au commentaire ce matin. Salut Clément.
Salut François, salut à toutes et à tous, salut les GG. On est parti en effet depuis 6 minutes. Bienvenue à Wellington pour ce deuxième match test de l'équipe de France après avoir fait douter les Blacks il y a une semaine tout juste à Dunedin sur cette défaite 31-27. Et bien là, on a tout réorganisé pour Fabien Galthié. On a remis 10 nouveaux joueurs dans la balance. Il y a l'arrivée aussi des finalistes du top 14 avec Brennan, avec Beauchaton, avec Vernon Taillefer qui est sur le banc aujourd'hui, Barassi de Porter, mais aussi Léo Barré, le parisien du stade français. On a connu notamment en ce début de rencontre une grosse séquence de la part des Bleus en blanc aujourd'hui qui sont bien décidés encore une fois à faire douter ces Blacks-là. Ça sera compliqué puisqu'ils sont revanchards, les All Blacks, après avoir douté à domicile. Ils n'aiment pas ça, ils veulent assurer leur supériorité. Et bien pour le moment, c'est plus l'équipe de France qui fait le jeu. 10 minutes de jeu à Wellington, 0-0.
Moi j'ai une question pour toi. On les traitait de vacanciers la première fois. Est-ce qu'on les traite toujours de vacanciers ou on les respecte un petit peu plus les Français là?
En tout cas, ils ont marqué les esprits en Nouvelle-Zélande, et pour avoir lu un petit peu les commentaires de certains anciens All Blacks, certains managers, certains joueurs, ils sont tous surpris de voir que cette jeune équipe de France, parce qu'elle est remaniée, elle l'était aussi la semaine dernière, a autant de talent. Il y a un joueur notamment qui s'appelle Théo Atisogbe, le joueur de la section paloise, qui a fait forte impression hier aussi, qui lui a été mis au repos pour pouvoir jouer la semaine prochaine pour le match 3. Mais c'est vrai que ces jeunes-là ont les dents qui règlent le parquet. On a fait aussi beaucoup de changements pour faire jouer la concurrence, pour jouer sur la fraîcheur. Donc non, ils sont pris au sérieux, loin d'être des vacanciers. Et sur le début de match, ils l'ont montré notamment, même si là, ils vont obtenir une pénalité, les Blacks, et peut-être marquer les trois premiers points de cette rencontre grâce à Boden Barrett.
On te retrouve évidemment tout au long de cette matinée pour nous commenter ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Deuxième match de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Allez, tout de suite, retour sur l'étape du Tour de France hier. Les coureurs qui se sont encore heurtés à un mur en Bretagne, nommé Pogacar.
RMC, la flamme rouge.
C'est parti pour cette course de côte, 1 km, alors pas tout à fait, hein, 600 mètres encore de montée, puis derrière le petit replat, la flamme rouge donc avec Remco Evenepoel en tête, Tadej Pogacar dans sa roue, Jonas Vingegaard juste derrière, Kevin Vauclin ensuite, et ils sont plus que 7-8. Tadej Pogacar qui va démarrer, il se dit il faut que j'attaque vite parce que sinon ils vont récupérer. Jonas Vingegaard est bien, il est dans la roue, c'est trop court pour Remco Evenepoel, ça va jouer entre les deux hommes. Est-ce que Tadej Pogacar est plus costaud que Vingegaard? Il est collé Vingegaard, est-ce qu'il va réussir à attraper une victoire de Tadej Pogacar devant Vingegaard? Tadej Pogacar, champion du monde, champion en Bretagne, il s'impose à Mur.
Le Tour de France qui va arriver en Mayenne aujourd'hui, et justement sur les routes du Tour, on retrouve Christophe Cessieux qui est avec nous. Salut Christophe.
Bonjour les garçons, comment allez-vous? Bon,
bah comment ça va? Tout se passe bien, Christophe, sur cette première semaine? Pas
tout
trop
va
fatigué
bien, tout va bien.
En pleine forme. Magnifique.
Avec une équipe du Tonnerre, on est bien et on attend la montagne qui va arriver dès lundi. Mais c'est vrai qu'on s'est régalé durant cette première semaine. Il s'est passé des choses quasiment tous les jours. Les organisateurs nous ont vraiment fait un tracé incroyable, même si évidemment Pogacar est en train d'écraser la concurrence.
Tu t'en sors avec les enfants Pinot et Coppel, là, pas trop turbulents? Ah,
c'est pas toujours facile.
Tu fais la police un petit peu?
Ils sont très dissipés, les GG au carré, là.
Hein. Bah oui, en plus, ils s'appellent Jérôme, alors ça doit pas être simple à chaque fois pour les recadrer. Christophe, tu vas évidemment nous accompagner pendant ce débat sur le Tour de France. Juste petite parenthèse, hein, la pénalité néo-zélandaise est passée, 3-0 pour la Nouvelle-Zélande face à la France lors de ce deuxième match de tournée en Nouvelle-Zélande pour l'équipe de France. La septième étape a donc été remportée par Tadej Pogacar devant Vingegaard, qui a quand même réussi à le suivre de près sur le sprint final. C'est déjà la deuxième victoire du Slovène sur le Tour. Il reprend aussi le maillot jaune de leader à l'issue d'une semaine quasi parfaite. Alors, cette question, les GG, est-ce qu'il y a encore du suspense sur ce Tour de France? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Fred Weiss.
Évidemment que non.
Pascal Duprat.
Oui.
Christophe Cessieux.
Au classement général, il n'y en a plus beaucoup.
Plutôt non pour Christophe. Avant d'en débattre, les amis, on retrouve Maria Azé, qui n'est pas très loin de toi, Christophe, puisqu'elle suit également le Tour de France pour RMC. Salut Maria.
Salut tout le monde.
Salut Maria.
Salut.
Alors, on a vu un Pogacar qui s'est imposé hier, je le disais. Est-ce qu'il a voulu montrer une nouvelle fois qui était le patron de ce Tour de France?
Oui, bah clairement, il était très sûr de lui et de ses qualités de sprinter. Hier, Tadej Pogacar, au moment de lancer son sprint dans la dernière ascension de Mur de Bretagne, il reprend donc le maillot jaune à Mathieu Van Der Poel. On avait même l'impression à l'entendre que c'était assez simple.
Je suis super content de cette victoire. Cette journée a été presque parfaite. On avait de bons souvenirs de cette montée. La journée s'est bien déroulée pour moi, comme prévu.
Au classement général, son principal adversaire, Jonas Vingegaard, a déjà 1/17 de retard. Mauro Gianetti, le manager du AE, n'en attendait pas tant de cette première semaine.
Il a quand même déjà un bon avantage, surtout sur Vingegaard, qui est probablement l'adversaire le plus costaud. Donc ça va peut-être un peu mieux de ce qu'on a prévu, mais ça ne veut rien dire, parce qu'on a vu les signes les premiers jours, c'est quand même très intense. Il faut prendre jour par jour, même si on est, au moment on est bien.
Le Danois, lui, vit un début de tour compliqué, surtout depuis le contre-la-montre mercredi. Jamais il n'a réussi à prendre le dessus sur Pogacar, mais il ne veut pas encore s'avouer vaincu.
It's been a hard first week.
La première semaine a été très difficile. Il sera curieux de voir d'ailleurs ce qu'il se passera lors de la troisième semaine, évidemment. Mais je pense que quand on y regarde de plus près, c'est un Tour de France très compliqué cette année.
Cédric Vasseur, le manager de la Cofidis, ne veut pas croire que le tour est déjà joué.
Les trois semaines sont inégales. On a parfois une super première bonne semaine et puis après on plonge, on fatigue. À l'inverse, on a parfois des difficultés à mettre en route, peut-être comme Vingegaard. Et puis en deuxième semaine, on trouve un rythme de croisière plus favorable. Donc je pense qu'il faut quand même attendre les premiers massifs montagneux pour voir ce que Vingegaard peut nous livrer. Moi, je pense qu'il ne faut pas encore considérer que le tour est plié.
Côté équipe, si Vingegaard a son équipe au complet, Pogacar pourrait être un peu plus handicapé après la chute de son coéquipier Joao Almeida hier, qui souffre d'une fracture à une côte. Il sera bien au départ ce matin, mais forcément moins performant pour aider le Slovène dans la montagne. Ce qui est sûr, c'est que les deux étapes de sprint ce week-end vont pouvoir permettre à tout le monde de recharger un petit peu les batteries.
Oui, ça c'est sûr. Pas pour toi, Maria. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir été avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé hier. Les GG, est-ce qu'il y a encore du suspense sur ce Tour de France ? C'est la question qu'on vous pose ce matin, 32-16 d'ailleurs, pour nous rejoindre. Simon, toi tu as dit oui, il y a encore du suspense.
Oui, mon cher François, il y a un petit peu de méthode couée, on va pas se le
t'as
cacher.
T'as envie d'y croire en fait.
Oui, on a envie d'y croire, mais parce que on a déjà connu les années précédentes des retournements en fait. Moi, j'ai l'impression que Vingegaard et Pogacar les dernières années, à chaque fois ils ont gagné le Tour alors qu'on pensait qu'ils n'étaient pas
de favoris.
Qu'ils n'étaient pas favoris au Granon en 2022.
Sauf
l'année dernière, hein. Oui. Je sais pas, tu penses que Pogacar était si favori que ça au départ du Tour l'an dernier ?
Bah oui, rappelle-toi de Vingegaard qui avait quand même chuté dans le Tour du Pays Basque, qui est arrivé complètement diminué. La victoire de Pogacar, elle était assurée au départ du Tour l'année dernière. Il y a eu un tout petit peu de doute, tu sais, quand il a gagné au Lioran, mais autrement, il n'y avait pas beaucoup de suspense l'année dernière.
J'ai envie de croire que la Visma est plus forte que ce qu'on croyait, que Almeida va être un petit peu diminué. Que
mais ça il va être diminué avec une côte cassée, forcément il va être diminué, mais je
et
sais
c'est
pas
vrai que c'est
ça.
Le joueur le coureur le plus important pour Pogacar, Almeida.
Non mais évidemment, mais on a quand même vu aussi un Pogacar être incroyable, savoir gérer. En fait moi je j'écoute les spécialistes, parce que vous le savez et ça se voit, je suis pas vraiment le mec le plus à l'aise sur un vélo et il connaît pas forcément le plus
mais j'ai par l'image, contre
quand j'écoute Christophe, quand j'écoute les deux Jérôme, ils nous expliquaient que la première semaine c'était il fallait justement que Pogacar soit pas complètement tout le temps agressif, tout le temps dans la volonté d'être devant, sauf que malgré ça il est quand même 1 minute 17 devant. Et donc sur une gestion d'une semaine où il avait pas besoin d'attaquer énormément, il a deux victoires d'étape, il est hyper facile. Alors oui, Almeida, on peut se poser la question, mais on sait aussi à quel point il peut être fort Pogacar seul, à quel point il peut être cannibale seul, à quel point il peut arriver au bout seul. Moi j'ai eu l'impression quand même, quand tu vois Vingegaard sur le contre-la-montre avoir ce moment de difficulté, ben je me dis ça va être difficile pour toi, mon propos.
Non, mais justement, à part dans le chrono, il prend une minute, sinon il est toujours là. Moi, je me demande s'il cache pas un petit peu son jeu. Hier, on l'a vu, il était très bien. Bon, peut-être qu'il va pas chercher la victoire d'étape, mais il est dans la roue de Pogacar. Et encore une fois, Christophe, on l'a vu chaque fois qu'on a pensé que Pogacar était trop fin. Moi, j'ai envie de croire qu'un Van Aert, cette fois-ci, il n'est qu'un simple grégario, un simple équipier, qu'il n'est pas là pour venir remporter des étapes. On l'a vu se laisser décrocher déjà dans des étapes précédentes. Je pense qu'il va être très utile à la Visma. Je pense qu'il y a un Simon Yates qui est très 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 en forme, qui est capable de malmener UAE. On va voir. Maria a rappelé que il y a une petite fêlure, fracture des côtes de Almeida. Bon, quand il faut se mettre en danseuse pour grimper, je pense que tu dois le sentir passer. Il va forcément être diminué. Vingegaard, il a prouvé. Alors bon, le Granon, c'est le mythe, hein, avec toute une équipe au service de son leader et qui, sur toute une journée, met une tactique en place. Mais je veux dire, il va y avoir Otakam. Vingegaard a déjà battu Pogacar à Otakam. Il va y avoir le col de la Lose. Vingegaard a déjà mis plus de 5 minutes à Pogacar, qui, de son propre aveu, n'a jamais autant souffert que dans cette montée, qui convient mieux aux qualités de Vingegaard. Peut-être que ça lui reste dans la tête. Alors, c'est à double tranchant. Peut-être que Pogacar, justement, on a fait une revanche depuis 2 ans et rêve de prendre sa revanche.
T'as envie de donner à Pogacar la possibilité d'avoir cette motivation supplémentaire.
Je n'ai pas envie.
Comme elle existe.
Je te dis que lorsque je regarde le parcours,
quand je vois Pogacar, je me dis c'est encore plus dangereux. Me dire que justement il a cette motivation de vouloir faire mieux sur cette partie-là. Et alors qu'il est tellement fort.
N'oublions pas qu'il reste 2 semaines de course. On a entendu Cédric Vasseur. Tu peux être bien une semaine et être moins bien la deuxième. Pogacar, il a beaucoup couru cette année en classique. Il va peut-être finir par payer ses efforts. On a un Matteo Jorgensen qui est toujours là avec les meilleurs depuis le début, le jour où ce sera le dernier équipier de Vingegaard. J'ai envie de croire que ce sera moins facile qu'annoncé, que prévu.
En tout cas, pour la méthode Coué, tu as l'air plutôt convaincu. Christophe.
Non mais franchement, est-ce que vous avez vu un signe, ne serait-ce qu'un tout petit signe d'une possible
défaillance,
baisse de régime de Pogacar? Rien, il n'y a rien.
Mais Christophe, ça fait qu'une semaine.
Mais oui, d'accord, mais ça fait des années.
Non, mais deuxième
des
question,
mois qui
après
dominent.
Je te laisse la
oui,
parole,
mais,
juste
mais,
une seconde.
Évidemment,
est-ce
Pascal,
que tu as vu, pendant les étapes en ligne, est-ce que tu as vu Vingegaard en difficulté face
oui.
à
Oui, alors
à,
je, alors je l'ai vu en difficulté dans le contre-la-montre. Rappelle-toi,
oui,
il y a un
une
mois.
En ligne.
Mais à chaque fois, vous trouvez des excuses. Rappelle-toi ce qui s'est passé il y a un mois dans le Dauphiné. Vingegaard met 50 secondes dans la vue à Pogacar. Ce jour-là, on se dit, ça y est, Vingegaard va renverser Pogacar sur le Tour de France. Ça va être énorme. Deux jours après, il se fait bananer dans la montagne à deux reprises par Pogacar. Et là, un mois plus tard, il prend une minute par Poggi dans le contre-la-montre. C'est-à-dire qu'il y a 1:30 de différence en un mois. Donc, si vous trouvez le moindre signe qui vous fait croire que Vingegaard est plus fort que Pogacar, moi, je veux bien le prendre, les gars. Moi, je rêve, évidemment, qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. Je rêve que le 26 juillet, on ne connaisse pas encore le nom du vainqueur du Tour de France. Mais j'ai du mal, je n'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Poggi est plus fort que jamais. Franchement, il a disputé, il a couru comme un maître durant toute la semaine. Il n'a pas fait une erreur. Il a fait les efforts juste quand il fallait. Il n'est jamais parti à 50 km de l'arrivée, comme il le fait d'habitude dans les étapes, dans les courses d'un jour. Il court au millimètre. Et à chaque fois, il bat Vingegaard. Jamais. Alors, en une semaine, Vingegaard n'est passé devant Poggi sur la ligne d'arrivée. Il se fait un principe de le battre, de lui mettre des tartes dans la gueule tous les jours. Tous les jours, jour après jour. Et Vingegaard, on le sent un peu dépité. Même si, évidemment, il essaye de dire qu'il est encore plus fort que d'habitude. Mais c'est pas vrai. Il n'est pas plus fort qu'avant. Et Pogacar est énorme. Tout simplement.
Juste avant de laisser la parole à Pascal, il n'est pas interdit de. Je sais pas, tu as raison, Christophe, évidemment, Pogacar, il est plus fort que jamais, évidemment, pour l'instant, Vingegaard ne l'a pas battu. Voilà, il y a des motifs d'y croire, d'espoir, de continuer de rêver un petit peu de suspense, je l'ai dit au départ, c'est un petit peu de méthode Coué, mais il n'est pas interdit, je ne sais pas, de penser que Visma, quand tu vois la façon dont Vingegaard a changé sa communication avec les médias, la façon dont il s'est ouvert, dont il s'est rendu compte finalement qu'il avait cette image un petit peu froide de cette équipe là pleine de robots qui calculent tout, pas interdit, je sais pas, de rêver à ce que la Visma se soit dit et si on la jouait un petit peu cachée là au lieu d'ouvrir notre grande gueule comme tous les ans en disant oui on veut ci, on veut ça, on va faire ci, on va faire ça.
Mais est-ce que qu'il la joue cachée de
je me
ils
pose
sont
la question
tous les jours pour rien
je
ils
me pose la question
rien.
Non ils oui bah tout. Ils essayent
mais
de non, ils font le ménage ils font le ménage
ils font le ménage pour Pogacar, il travaille pour Poggi, on a l'impression.
Non mais peut-être
il y avait une tactique quand même qui était vraiment au point. Tu en parlais tout à l'heure, Simon, dans le col du Granon il y a quelques années, qui avait été énorme. Mais là, j'ai l'impression qu'il court comme la Movistar des grandes années.
Pascal.
Il court à l'envers, il travaille pour Pogacar et celui-ci, il a plus qu'à mettre sa petite pointe de vitesse à la fin. Non, franchement, je trouve qu'il court complètement à côté. Là,
Pascal Duprat,
le grand Richard Pugueux, dont on dit qu'il est le plus grand théoricien, mais là,
Pascal Duprat,
c'est chaud hein, pour avoir la parole.
C'est pas facile, mais voilà.
Je vais vous laisser parler.
Christophe est exceptionnel dans son analyse.
Toi, tu
Christophe.
Penses qu'il y a encore du suspense, en tout cas, Pascal.
Oui, mais en fait, oui, je suis d'accord avec Simon, je suis d'accord avec tout le monde, en fait. Moi, c'est de la méthode Coué, mais surtout, c'est de la sagesse. Christophe, je suis surpris. Je suis surpris que tu dises que ça soit terminé alors qu'il reste 15 jours de course, alors que la montagne n'a pas démarré. Et alors que, en fait, si on veut bien regarder les choses avec clairvoyance, Pogacar, il a dominé sur le contre-la-montre Vingegaard. Ensuite, c'est que du sprint. Il est meilleur au sprint que Vingegaard. On n'a pas entendu le mur de Bretagne pour s'en apercevoir. Or, Vingegaard, il est resté certes dans sa roue. Il faudra plusieurs conditions pour que le suspense demeure encore en deuxième semaine, puis en troisième pour un dénouement.
Ça s'appelle un miracle, c'est pas des conditions. Hein.
Pas un miracle, parce que Almeida, hier, il est tombé, et crois-moi, la chute, tu l'as vu, elle était spectaculaire, mais elle a dû être lourde. Donc c'est quand même le lieutenant principal en montagne de Pogacar.
Bien sûr.
Depuis le début de la semaine, on doit reconnaître que les Visma, ils essayent d'user Pogacar, ils n'y arrivent pas, certes. Mais qui dit que ce travail de sap va pas payer dans la montagne où là, Vingegaard, sur plus long, sur une montée plus linéaire, pas sur un coup de cul, mais sur de la longueur, sur de l'effort intense, il est au moins, il fait au moins jeu égal avec Pogacar. Donc, il a 1:17 de retard. Et on oublie une chose, c'est qu'on ne sait pas ce que Evenepoel,
qui a 54 secondes,
est capable de faire en montagne. S'est-il amélioré par rapport à l'année dernière? Donc, tout ça, c'est des interrogations qui me laissent à penser que ce n'est pas fini.
Parfait, Pascal. On va continuer évidemment le débat avec vous, messieurs, juste avant un détour par le rugby. Nouvelle-Zélande, France, deuxième match de la tournée des Bleus. Comment ça se passe, Clément Brossard?
On joue depuis 21 minutes à Wellington, 10-3 pour les Néo-Zélandais en infériorité numérique. Fabien Galthié avait demandé de voir une équipe de France décomplexée. Elle l'est clairement. Le premier essai a sonné à la 10e minute sur une sortie de touche où les Néo-Z excellent, avec notamment le capitaine Savea qui a pu servir regarde côté fermé pour inscrire le premier essai de la saison. Et la petite réaction quand même des Bleus, qui ont réussi à mettre en place un jeu en mouvement, beaucoup de rapidité, qui a notamment mis Boden Barrett dans la faute, le carton jaune pour en avant volontaire et la pénalité transformée par Nolan Le Garay, qui a de cela 1 minute 10-3 pour la Nouvelle-Zélande face à l'équipe de France. 22 minutes de jeu.
Merci Clément, restez avec nous sur RMC, les grandes gueules du sport qui continuent. On continue le débat sur ce Tour de France. Est-ce qu'il y a encore du suspense, des réactions sur l'appli RMC Direct Studio? Je vous les lirai dans un instant. Et puis Vincent est avec nous au 32-16. On lui demandera son avis. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet. Simon Dutin, Pascal Duprat, Fred Weiss ce matin. Et puisqu'on parle de Tour de France, on est avec Christophe Cessieux depuis 9h avec notre débat sur est-ce qu'il y a encore du suspense sur ce Tour de France. On va continuer le débat avec vous au 32-16. Dans un instant, il y aura également le zapping des GG avec le choix notamment de TF1 de diffuser le Paris Saint-Germain plutôt que l'équipe de France féminine. Demain, on en parlera. Il y a du direct aussi ce matin avec Nouvelle-Zélande-France. Deuxième test match des Bleus face à la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande, et un nouvel essai inscrit par les All Blacks, Clément Brossard.
Ouais, la touche néo-zélandaise nous fait mal, François, elle nous fait très très mal, à moins de 10 mètres sur le côté gauche, groupé pénétrant, et à la finition, eh bien, le capitaine Ardis Avea pour inscrire le 28e essai de sa carrière. Ça a été transformé derrière par Jordi Barrett, les Bleus qui pendant 5 minutes peut-être avaient repris pas mal de mouvements, pas mal de rapidité et de fluidité, mais force est de constater que ces Blacks là sont piqués au vif, vexés du dernier match de la semaine dernière où ils ont été bousculés. On a envie de mettre les choses au clair. 17-3 pour les All Blacks après 28 minutes de jeu.
Attention à la valise, hein, évidemment, on va surveiller ça de très près avec toi, Clément. On le disait, effectivement, est-ce qu'il y a encore du suspense sur ce Tour de France? On se pose la question au bout d'une semaine de Tour de France avec un Tadej Pogacar en jaune. Déjà, j'entends les petites
cigales. Oui, c'est chez Pascal. Hein, c'est chez Pascal. C'est pour ça qu'il est si féerique, il est si ouais, heureux de tout. Et qu'il pense
non, je ne suis pas féerique, c'est surréaliste.
Je vais vous donner la parole parce que Martial nous dit, par pitié, ne faites pas croire aux auditeurs que le Tour n'est pas plié, sauf une chute. Ça, c'est ce qu'on nous dit sur l'appli RMC Direct Studio.
On ne fait croire à personne.
On
ne
fait croire
à nous-mêmes. Laissez-nous tranquille.
C'est pire de se mentir à soi-même, Simon. C'est ça le problème. Se mentir à soi-même, c'est pas bon.
On ne se ment pas, on se donne des motifs d'espoir, encore une fois.
Quelle solution alors? La solution, c'est de pas écouter RMC.
Mais non, mais
pendant 15 jours.
De voir la domination de Pogacar, l'entendre, écouter Christophe le raconter à merveille.
Écoute-moi, si tu as raison d'aimer, d'admirer Pogacar, et personnellement, j'ai raison de croire qu'il est possible que Vingegaard le chatouille d'ici les 15 prochains jours. C'est mon droit le plus entier.
Et
avec Simon, mais peut-être que dans quelques jours tu vas être confus. Attention,
et que tu l'es déjà.
Allez, Little Big Fred, s'il te plaît, attention.
On va écouter ce que veut nous dire Vincent. Vincent est au 32-16 avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Salut Vincent.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Salut Vincent.
Alors t'es plutôt Vincent. Team Duprat Dutin qui veulent et qui voient encore du suspense dans ce Tour de France, ou plutôt de la team Weiss Cessieux ce matin?
On va espérer qu'il y ait du suspense, tout simplement parce que Vingegaard, lui, il a préparé que ça. Alors que Pogacar, depuis le début de l'année, il court après tout. Donc, si on veut espérer qu'il y ait un peu de suspense, il faut se dire que le pic de forme de Vingegaard va arriver d'ici la montagne. Et c'est vrai que là, on vient de vivre une semaine de classique. On vient de vivre vraiment une semaine particulière du Tour de France, parce que tous les jours, c'était des classiques, avec des choses plutôt dures. Et Vingegaard, Pogacar évidemment est largement au-dessus. On voit qu'il est dans le contrôle. Mais moi j'aime le Tour. J'ai envie de le regarder pendant 2 semaines encore. Et je me dis que Vingegaard va tout donner dans la montagne pour user Pogacar et puis lui faire payer un peu peut-être son excès d'ambition qu'il a eu sur l'année. Mais on est sur un coureur exceptionnel. Attention, et Pogacar c'est pas n'importe qui. Mais on verra si ne pas courir beaucoup ou de courir beaucoup, on verra ce qu'il paye en tout cas. Mais j'ose y croire, J'essaye d'y croire. Je ne suis pas aussi optimiste que Pascal, parce que Pascal imagine que ça peut basculer. En tout cas, moi, celui en qui je ne crois pas aujourd'hui, c'est Van der Poel, qui sera, je pense, limite en montagne. Il va, voilà, mais ça va être un peu court. Mais voilà, on va avoir un duel. Il faut profiter de ce duel, attendre les grosses étapes de montagne, parce qu'on va avoir quand même des choses très, très dures. Et on va voir si Poggi a bien préparé son tour ou s'il en a trop fait.
Bah justement, Vincent, tu parles d'Evenepoel. On peut demander à Christophe si tu le vois un peu meilleur que les années précédentes dans la haute montagne. Parce que là, on a vu qu'il était là, il est au contact, il est à 54 secondes de Pogacar. Il a remporté aussi le chrono, hein, ça c'est sa spécialité. Mais est-ce qu'il peut se mêler à la course?
On il a perdu duel. Cataneo
est-ce
hier,
que ça peut être
François,
un trio, Christophe?
Non.
Non, tu crois pas non plus.
Je suis désolé de casser vos rêves, mais malheureusement Remco, c'est un formidable rouleur. On l'a vu encore dans le contre-la-montre, il a été énorme. On l'a vu, on le voit bien hier aussi, même dans le mur de Bretagne. C'est lui qui prend le lead à un moment dans les pentes les plus dures. Mais au moment où ça se déclenche vraiment, où la bagarre vraiment se déclenche, il est battu, il est largement battu. Il a même plus la grinta qu'il avait les années précédentes, je trouve. Il a moins de jus. Moins de pêche, et à chaque fois il se fait battre en montagne. Ouais. Et là, on n'est que dans des petites côtes. Hein. Vous savez, les longs cols des Pyrénées et des Alpes, là, ce n'est pas son ouais. territoire. Même s'il dit avoir progressé, même s'il dit avoir perdu encore du poids pour espérer rivaliser avec les autres. Mais bon, je ne peux qu'espérer, mais je ne vois aucun signe pour l'instant qui m'indique qu'il pourra être dans le coup pour inquiéter Vingegaard et Pogacar en haute montagne. Pour l'instant, il reste le troisième homme, et peut-être que Vauclin sera le troisième homme. Ça, on l'espère.
Mais... Exactement, Christophe, parce que il a déjà en valeur absolue. On sait qu'il grimpe moins en très haute montagne. Il est quand même a priori pas invité entre Pogacar et Vingegaard. Il l'a dit hein, sur le plateau du diffuseur après sa victoire dans le contre-la-montre. On lui a demandé vous voulez remporter le tour. Il l'a dit très très honnêtement, en toute transparence. Il a dit je pense que c'est encore un peu tôt, et pour plusieurs raisons. Ils sont encore plus forts ouais. que moi. Et il l'a rappelé, il y a quand même plus de la moitié de la Soudal qui est construite pour faire gagner des étapes à Merlière. Et lui, hyper Cataneo hier sur abandon, ça va commencer à être. Il l'a dit, moi c'est podium. Mon objectif c'est podium. Donc bon, là tu peux pas imaginer que c'est pour avancer masqué. Moi je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. En effet, et ce qu'a dit Vincent, Vingegaard il se prépare pour le Tour de France et uniquement pour le Tour. Il va pas sur les classiques. On le regrette pas, mais. Il n'est pas interdit de penser que la préparation physique, elle s'est faite pour arriver au pic de forme sur les étapes de montagne. Encore une fois, ce serait pas ahurissant. Le plus gros de l'écart qu'il accuse sur Pogacar, c'est dans le contre-la-montre qu'il l'a pris pour l'instant. Il n'a pas pris de gros écarts.
Oui, mais on n'était pas annoncé qu'il devait gérer
pas encore en montagne.
La première semaine, il l'a géré parfaitement. Christophe l'a redit.
Donc attention,
contre-la-montre. Il fait aucune erreur. Bah, sur le contre-la-montre, il est juste bon. Mais... Et Vingegaard.
Vingegaard, en revanche, il a avoué avoir eu une défaillance sur le contre-la-montre.
Et encore une fois, c'est la nouvelle transparence de la Visma, leur nouvelle communication. Pascal disait il ne l'a pas usé. Non, il ne l'a pas battu, mais il n'est pas interdit de croire qu'il l'a usé, en effet, et que les efforts vont finir par se payer. J'en reviens à Jorgensen, moi, que je trouve très impressionnant cette année, qui pourrait être leader dans une autre équipe. Almeida, qui sera forcément un petit peu diminué. Et puis voilà, ça c'est les proverbiales risques de fringales, de coups de moins bien. On est à l'abri de rien. Donc
Pogacar, il sait se gérer.
On vend pas du rêve.
Je me rappelle il vient de faire le Giro, il va être naze. Mais je sais pas pourquoi il s'est autant battu. Pourquoi il a battu, il a gagné autant d'étapes. Finalement, il arrive au Tour de France et il écrase la
concurrence. On verra s'il a plus Almeida dans le col de la Lauze, il a plus d'équipier et qu'il explose comme il y a deux ans. Il avait pris plus de 5000 euros.
Il a eu quasiment
6 minutes.
De l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, il s'est géré. Il a battu tout le monde. Il a marqué sur tout le monde l'année dernière.
Arrêtez de regarder le Tour de France pendant 10 ans.
Il y en a un autre qui a vécu.
C'est génial d'avoir un grand champion. Je comprends pas que tu n'aimes pas ça.
Tu sais quoi? Moi, ce que j'espère, il n'y a qu'une chose que j'espère, c'est que Vingegaard, parce que peut-être qu'il ne peut pas faire autrement pour l'instant, mais ses équipiers, je pense que ses équipiers, à force d'envoyer, ils ont fait mal à UAE. Et d'ailleurs, l'heure, Almeida est tombé. Alors est-ce que ça a une incidence? J'en sais rien. Moi, ce que j'espère, c'est Vingegaard, il arrête de sucer les roues. Voilà, c'est tout. C'est qu'il montre du panache et qu'il explose tout ça dès lors que ça va monter.
Alors ça sera peut-être dès lundi.
C'est tout ce qu'on attend.
Cas,
puis on après, va... ben,
oui. on saura une reconnaître lundi, on se reparle, Pascal.
Ben, on saura reconnaître la supériorité de Pogacar.
On aura l'occasion d'en reparler.
Pour l'instant,
évidemment.
Il reste 15 jours. Laisse-nous rêver.
On va remercier
s'il prend 2 minutes dans la montée d'Otakam. Bon, oui, effectivement.
On va remercier Christophe parce que avant donc cette grosse étape de montagne de lundi, il y a des étapes toutes plates là promises aux sprinteurs, notamment aujourd'hui, hein, la 8e étape qui emmène les coureurs jusqu'à Laval, Christophe.
Oui, bah, c'est 2 jours de repos pour Pogacar, il l'a dit hier. Maintenant, je suis tranquille. Voilà. Il y a 2 journées quasiment de repos. Et ensuite, bah, les choses sérieuses reprendront lundi avec l'étape dans le Massif Central. Ça va être une belle étape, ça. C'est une étape de moyenne montagne, mais ça va vraiment être très usant. Donc, on verra si, comme vous l'espérez, la Visma peut mettre à mal Pogacar. J'y crois pas une seconde, mais sait-on jamais. Non, moi, je pense que le seul risque qui peut encore toucher Pogacar, c'est le risque de la chute. On l'a vu. Ça peut, une demi-seconde d'inattention et tous les espoirs peuvent s'envoler. Hier, Almeida a chuté. On ne sait pas dans quel état il va se retrouver. On ne sait pas s'il va pouvoir l'aider. Mais voilà, moi je pense que c'est le seul risque qui peut encore toucher Pogacar.
Dès 14h, Christophe, l'intégral tour pour cette 8e étape du Tour de France. À demain, Christophe. Et quelque chose me dit qu'on parlera d'un Français, Kevin Vauclin, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Mais on a envie d'en parler évidemment dans les grandes gueules du sport. Et on parlera tout à l'heure avec Jérôme Pinault du Tour de France. Ça sera à 11h, puisque justement, on va revenir sur ses chutes
à
répétition.
On baisse en qualité, quoi.
Est-ce que c'est de la faute des coureurs? Ça, c'est toi qui le dis. Je pense que Jérôme nous écoute. Il va être en pleine forme à 11h. C'est parfait, tout ça. On remercie Vincent d'être passé également au 32-16. Et puis du rugby au programme, vous le savez, en direct en ce moment, Nouvelle-Zélande-France. Attention à la valise, Clément Brossard.
Il reste 5 minutes avant la pause. Le troisième essai, il y a quelques instants, pour les Blacks. Cody Tyler sur une sortie de touche. Encore une fois, un ballon porté. Le talonneur des Blacks derrière le train néo-zélandais. En est jusqu'à l'embut. La transformation a été manquée par Boden Barrett. L'équipe de France en infériorité numérique pour un plaquage à deux avec notamment Brennan et Abadi. Et en retombant sur le sol, et bien la tête de Brennan percute le nez de Jordi Barrett. Carton jaune bunker qui finalement est resté jaune. On vous souligne les premières capes pour Erdosio, pour Alagahu, pour Brennan donc, et pour Beauchaton pour les bleus en blanc aujourd'hui. Mais un autre aussi qui connaît sa première cape aujourd'hui dans le camp d'en face. C'est Timothy Tavatavanawai qui lui est un monstre, notamment meilleur gratteur au Super Rugby, qui vient de faire son entrée il y a quelques instants. 35 minutes de jeu, 22-3 pour la Nouvelle-Zélande.
Merci Clément, on te retrouve évidemment tout au long de cette matinée pour suivre cette rencontre. Et dans un instant, ça sera l'heure du zapping des grandes gueules du sport. On parle notamment du choix de TF1 de laisser le match des filles demain sur France 2 et de diffuser PSG Chelsea. Restez avec nous, on revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h47 sur RMC. Bon courage d'ailleurs si vous êtes sur la route des vacances. On vous accompagne ce matin en direct jusqu'à midi avec Simon Dutin, Pascal Duprat, Fred Weiss. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, toujours très nombreux. Les GG du sport, vous le savez, ne s'arrêtent pas pendant tout l'été sur RMC. À 10h, on parlera du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé qui a brillé notamment contre le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. Est-ce qu'il a pour autant enterré le débat autour du Ballon d'Or? 32-16 pour nous rejoindre. Il y a du rugby au programme avec un nouvel essai néo-zélandais, Clément Brossard, Nouvelle-Zélande-France.
Le 4e essai pour les Blacks. Ils ont un autre visage, hein, le visage de la soif de vaincre. Les joueurs de Razor Robertson, 29-3 pour les Blacks. Cette fois, c'est un jeu dans l'axe conclu par Cody Taylor sur un service, par Tupovalai, pardon, sur un service de Fabian Holland à l'intérieur. Conséquence de plaquage manqué aussi. Beaucoup de soutien pour les Blacks qui enfoncent le clou, 29-3. Il reste 1 minute 30 à jouer dans cette première mi-temps.
Aïe, quelque chose me dit qu'on reparlera peut-être de cette rencontre demain dans les grandes gueules du sport. Mais d'abord, c'est l'heure du zapping des GG.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Vous connaissez le principe par cœur, je vous donne des actus de la semaine, ça vous plaît, vous pouvez parler, vous en foutez, vous passez votre tour. Le match de l'équipe de France féminine programmé finalement sur France 2, PSG Chelsea, sera sur TF1 demain 21h. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat. Pascal Duprat.
Une fois.
On s'en fout pas.
Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Dans un premier temps, TF1 devait diffuser le France-Pays-Bas sur son antenne. Donc match de l'Euro, troisième match de groupe. Finalement, les dirigeants de la Une ont choisi de diffuser la finale de la Coupe du Monde des clubs PSG-Chelsea au même moment, à 21h, reléguant les filles sur TMC. Et finalement, on a appris hier qu'un accord avait été trouvé pour permettre à France 2 de diffuser ce France-Pays-Bas. Juste avant de vous entendre, on va écouter la réaction d'Elisa de Almeida, hier en conférence de presse, joueuse de l'équipe de France féminine, qui était plutôt satisfaite d'être diffusée sur France 2.
Bah, je pense que c'est très positif. Je pense que ce soit bien que les deux chaînes aient trouvé un accord. C'est vrai qu'on est, contente parce que ça va permettre plus de visibilité. En tout cas, on l'espère. Mais je pense qu'il faut prendre ça comme une très très bonne nouvelle pour le football féminin.
Pascal, tu ne t'en fous pas de cette information?
Bah déjà, ça veut dire que le foot français, que ce soit les hommes ou les filles, ça intéresse beaucoup. Donc, c'est toujours le sport numéro un et le sport télévisuel par excellence. Il est normal que le PSG soit diffusé sur TF1 parce que c'est la finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors que pour les filles, c'est un match de poule le dernier. Et c'est bien que ça soit sur France Télévisions parce que comme ça permettra au plus grand nombre de voir les filles évoluer, qui démarre très bien dans cette compétition. On va attendre la suite.
En même temps, ça signifie aussi que TF1 a choisi quand même de diffuser plutôt la finale de Coupe du Monde des clubs plutôt que l'équipe de France. Non, même féminine, c'est l'équipe de France.
C'est logique.
C'est logique ça, si tu penses aux audiences, ça. Oui.
Mais, alors déjà, je sais que c'est une chaîne qui a pour but de gagner de l'argent aussi. Donc, ils pensent forcément aux audiences par définition. Et ensuite, il faut quand même réfléchir d'un côté, parce qu'elle a très bien dit. Et d'un côté, il y a une finale. Et de l'autre côté, il y a un match de poule. Alors oui.
C'est l'équipe de France.
Oui, mais c'est une équipe qui représente la France. C'est une équipe qui a fait rêver tout le monde, ce PSG, qui a gagné la Ligue des Champions, qui surfe encore sur cette vague-là.
Qui représente pas toute la France, hein, parce que certains supporters de l'OM, ils vont peut-être pas regarder ce match.
Alors qu'on n'aime pas le PSG parce qu'on est de l'OM, je l'entends, mais quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en dise,
ouais, respect, ça représente la France. Pour le PSG.
Non, mais bien sûr. Parce que
c'est une équipe de Ligue 1, et en termes d'audience, il n'y aura pas même
débat. Mais il ne faut pas être hypocrite. C'est uniquement pour les audiences.
C'est pour les audiences.
Oui, mais c'est pas parce que c'est finale contre l'équipe de France, c'est pas vrai. C'est uniquement une question d'audience, Fred, tu le sais.
François, on est quand même confronté à un principe de réalité. François, on travaille dans les médias. Il y a de la pub avant, il y a de la pub pendant, il y a de la pub après.
Mais oui, mais là-dessus, il n'y a pas de débat.
Et Pascal et Fred ont raison de rappeler, il y a quand même une finale de Coupe du Monde, alors quoi qu'on pense de cette compétition.
Après avoir dit exactement que cette compétition,
il y a quand même eu deux, mais ça, on aura l'occasion de dire. Il y a quand même eu deux phases dans ce tournoi. Évidemment, la phase de poule, c'était un peu grotesque et je pense que c'est à repenser depuis les matchs à élimination directe. En tout cas, ce qu'on a vu de Paris contre le Bayern, contre le Real et espérons-le contre Chelsea, ça ressemble quand même à du foot de haut niveau. Il y a une finale de Coupe du Monde face à un match de groupe qui compte, elle est quasiment pour du bas, elles sont quasiment qualifiées les filles. Même le patron des sports de France 2.
France 2, oui, lui, il s'est félicité puisqu'il récupère ce match.
Oui, mais il a admis que la décision de son confrère de TF1 était logique, qu'il la comprenait, qu'ils auraient certainement fait la même chose. Mais ce qu'on pourrait rétorquer, c'est que c'est finale de Coupe du Monde des clubs face à un match de groupe, alors que t'as quand même l'équipe nationale face à une équipe de club. Donc c'est deux façons de voir les choses, mais on en revient à la force de l'émetteur, mon cher François.
Très bien, bravo. On passe à l'Olympique de Marseille, toujours du foot, qui réfléchit à faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Mercato, on s'en fout, on s'en fout pas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Ça a l'air passionnant, mais je m'en fous complètement.
Simon Dutin.
Je vais laisser Pascal, j'en ai beaucoup parlé dans l'after hier. Je vous invite à
écouter. Je vais préciser
Pascal qu'il est libre hein, après son passage en Arabie Saoudite. Il négocierait actuellement avec l'OM pour un possible retour. Il était là il y a un an. Hein, il est parti il y a un an. Il avait inscrit 30 buts lors de son passage. Un passage réussi à l'Olympique de Marseille. Mais bon, il a 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang.
Voilà. Je voulais juste dire que il y a le doute quand même parce qu'il s'est passé un an entre ces 30 buts et le fait qu'il revienne à l'Olympique de Marseille.
Il a marqué 21 buts cette saison quand même. Hein.
Attention au réchauffé. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et à un moment donné, il y a l'année de trop. J'espère que ça sera pas le cas pour Aubameyang. Si d'aventure il venait à signer à l'OM.
Très bien. Bon, ben voilà, ça c'était l'avis de Pascal sur Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous invite à retrouver d'autres infos mercato sur rmcsport.fr. C'est la mi-temps entre la Nouvelle-Zélande et la France, Clément Brossard.
Ça se passe pas si bien que ça à Wellington, moins bien en tout cas que la semaine dernière où les Bleus s'étaient inclinés 31-27, mais avec beaucoup d'honneur. C'était un toit fermé, pelouse synthé hein, à Dudelin. Là, cette fois, on a quand même la ville au vent, Wellington. Il y a des conditions météo climatiques, mais il y a surtout une équipe de France en grande difficulté, battue par la supériorité à la conquête, notamment des touches magnifiquement réalisées qui ont permis notamment aux Blacks d'inscrire 3 des 4 essais dans ce premier acte. 29-3 donc pour cette équipe néo-zélandaise dans ce deuxième match test. Il y aura le match 3 au Waikato Stadium la semaine prochaine, et donc on attend déjà une réaction pour les Bleus dans cette seconde période, mais ça sera très compliqué.
Ouais, c'est sûr que là quand tu encaisses tout ça à la pause, ça doit pas être facile de se remobiliser pour revenir en deuxième période. Hein.
Il y a des jeunes joueurs, ils sont obligés de se remobiliser. Ils ont des choses à montrer.
Ils ont surtout peur, à mon avis, de revenir avec une valise bien chargée.
Mais voilà, c'est ça ton problème. Tu n'es pas positif.
Ils vont se remobiliser, mais ils vont prendre 50 points.
Voilà, ils seront super mobilisés.
C'est plus sûr que Pogacar qui domine les 15 premiers.
Voilà, c'est ça ton problème. Tu choisis tes combats.
La deuxième période à suivre en direct dans les grandes gueules du sport, évidemment, de ce Nouvelle-Zélande-France. Dans un instant, on va parler de la course au Ballon d'Or. Est-ce qu'Ousmane Dembélé a enterré le débat du Ballon d'Or? Tiens, encore une fois, une question de suspense. Est-ce qu'il y en a encore? En tout cas, ce matin dans les GG, il va y avoir du débat, comme depuis ce matin. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.